macabre et mystérieuse découverte des membres découpés apparemment à la scie de 3 personnes, des femmes, disent les enquêteurs, ont été retrouvés dans des sacs poubelles à Cuem, près de Mons. Les fouilles se poursuivent sans discontinuer depuis hier pour essayer de retrouver les troncs et les têtes qui manquent et qui rendent encore plus difficile l'identification des cadavres.
Il y a presque 30 ans, une série de découvertes macabres plongeait la ville de Mons dans la peur.
Cette affaire était assez exceptionnelle. On n'avait jamais connu ça en Belgique.
Un tueur que les médias appelleront plus tard le dépeceur de Mons, laissait des corps mutilés dans des sacs poubelles abandonnés.
Aujourd'hui, alors que la prescription de cette affaire approche à grands pas, les victimes et leurs familles restent sans réponse. Ce mystère qui n'a jamais été résolu est sur le point de se refermer définitivement, comme si les crimes n'avaient jamais existé.
Je me souviens que moi, mes parents avaient peur... Vis-à-vis de ma sœur, ils avaient peur lorsqu'elle sortait le soir et la nuit, ils avaient peur qu'il lui arrive quelque chose. Ils avaient peur qu'il lui arrive quelque chose en lien avec cette histoire, justement.
Pourquoi ce criminel n'a-t-il jamais été arrêté ? Que nous reste-t-il de cette histoire ?
Bienvenue dans ce podcast dédié à l'affaire du dépeceur de Mons, un dossier judiciaire qui pourrait bientôt sombrer dans l'oubli. Un podcast présenté par Marie Alves dos Santos, Lisa Robinet, Claire Alves dos Santos, et moi-même, Lucas Vormelen.
Nous sommes le 22 mars 1997, à Cuem, près de Mons. Olivier Motte, policier, se rendait à son travail.
C'est un policier à cheval, un policier montois qui revenait d'avoir traîné sa monture. Il avait sorti, c'était un samedi.
Danny Corlana, co-auteur du livre « Il est moins 5 ».
Il a remarqué à sa droite un mouvement, et il a vu un chat qui s'amusait avec un sac poubelle et il est aperçu que le chat tirait ce qui lui a semblé être une main du sac poubelle. Donc il a été interpellé, il est descendu de cheval, évidemment, il a été voir, et effectivement, dans le sac poubelle, le chat avait retiré du sac poubelle une main.
L'autopsie indiquera la présence non pas d'un, ni deux, mais 3 corps. 3 corps de femmes qui venaient d'être dépecées. Ceci marquera le début de l'enquête sur le dépeceur de Mons.
Mais alors, pourquoi ces femmes ? Qui sont-elles ? Pourquoi ont-elles été la cible du dépeceur ? Quels étaient les points communs entre elles ?
Martine Beaune. Jacqueline Leclerc.
Nathalie Godard.
On déduira que les corps seront ceux de ces 3 femmes. Enfin, pour parler de corps, parlons de membres, puisque nous n'avons retrouvé uniquement des bras et des jambes.
Si l'affaire policière débute le 22 mars 1997, les victimes, elles, étaient là depuis bien plus longtemps.
Les 3 femmes avaient donc un point commun entre elles. Elles avaient disparu il y a au moins quelques semaines. La première, Martine Beaune, 43 ans, avait disparu le 21 juillet 1996. Jacqueline Leclerc, la seconde, 33 ans, avait disparu le 22 décembre 1996. Pour terminer, Nathalie Godard, 22 ans, avait quant à elle disparu quelques semaines au préalable.
Deux jours après les premières découvertes, le 24 mars 1997, de nouveaux sacs poubelles sont découverts.
À l'intérieur, une 4e femme était découpée. Cette trouvaille aura lieu au chemin de l'inquiétude à Mons.
Mais cela ne s'arrête toujours pas là. Le 12 avril 1997, deux semaines après la dernière découverte, de nouveaux sacs sont retrouvés à Avray, à proximité de la rivière de la Haine.
Jusqu'ici, aucune piste n'a encore été élaborée. Plusieurs liens entre les femmes peuvent être réalisés.
Donc on a déterminé que les victimes venaient toutes du quartier de la gare où avaient fréquenté le fameux quartier de la gare, qui à ce moment-là était un quartier qui était tout à fait à part dans la ville de Mons. C'était un quartier où, très peu recommandable, si vous voulez. Les enquêteurs et bon, les journalistes aussi ont décrit les victimes comme étant des femmes entre guillemets de mauvaise vie. Elles ont été cataloguées très vite comme ça. Alors que bon, par la suite, on s'est aperçu que oui, elles avaient des problèmes psychologiques, elles vivaient seules, mais certaines travaillaient, certaines avaient des problèmes qu'elles tentaient de résoudre, et une qui allait arriver à la fin de ses problèmes et qui reprenait le poil de la bête. Donc ce n'est pas du tout dépaumé comme on les a décrites au début.
Le plus surprenant peut-être, c'est qu'entre elles, les victimes se connaissaient.
En effet, certaines d'entre elles fréquentaient l'hôtel Métropole, à Mons.
Situé à 500 mètres de la gare, cet établissement était reconnu et souvent un point de rendez-vous pour les fêtards de la ville. Maintenant que nous avons le profil des victimes, intéressons-nous à celui du dépeceur.
Et en fait, il a laissé très peu d'indices, c'est pas du tout, parce que sur les sacs poubelles, on a essayé de trouver de l'ADN. Sur les corps, les autopsies ont été pratiquées, et tous les examens possibles, mais on n'a rien trouvé de probant.
Nous savons que les cadavres ont été découpés avec une précision remarquable. Manifestement, à la scie.
Au total, ce seront 1000 pistes, 1000 sous-dossiers qui ont été étudiés par les enquêteurs.
Selon les indices, les enquêteurs ont établi qu'il s'agissait sûrement d'un homme d'environ 35-40 ans.
Le dépeceur était probablement célibataire, ou en tout cas il y vivait seul, car il était très discret.
D'après les autorités, aucune personne ne l'a vu ou même entendu.
Il avait sûrement des connaissances en anatomie, vu comment les corps étaient découpés minutieusement. Ce qui pourrait être le signe d'un professionnel tel qu'un boucher ou un chirurgien, par exemple. Il était aussi sûrement originaire de Mons et il avait comme capacité de se fondre dans la masse.
Au niveau du profil psychologique, il pourrait s'agir d'un psychopathe organisé. Il est capable de planifier des crimes sans agir sur le coup de l'émotion.
Il serait décrit comme un homme solitaire, méthodique et probablement doté de connaissances. Le fait que tous les corps aient été découpés de la même manière laisse penser qu'il n'y a qu'un seul meurtrier.
Mais à cette question, nous n'avons jamais eu de réponse.
On dit toujours le dépeceur, mais c'est vrai qu'il pourrait avoir un complice, une complice, c'est peut-être une femme aussi, il n'y a aucune exclusive. Ça peut être un duo, quelqu'un qui ira. Un rabatteur peut-être pour que le dépeceur ou son complice puisse assouvir sa passion macabre. Mais oui, tout est possible, même un groupement, une secte. On peut aller chercher très loin, mais c'est possible aussi. Oui.
Mais la question plane. Qu'est-il devenu ? Est-il mort ? A-t-il disparu volontairement pour échapper à la justice? Ou pire, est-il déjà en prison pour d'autres crimes?
Mais surtout, est-il possible qu'il rôde encore à l'heure actuelle?
De nombreuses théories se bousculent. Je suis sûre que c'était un boucher parce qu'il utilisait des outils que seuls les bouchers avaient. C'était trop bien coupé.
Eh bien moi, je pense qu'il est mort. Soit il s'est suicidé, soit il est mort de vieillesse, parce que je me dis que s'il était encore vivant, bah, il aurait encore continué à tuer des gens, quoi. Donc moi, je pense qu'il est mort.
Alors pour moi, je pense que c'est un médecin, parce que où savoir couper et comment couper, bah, il n'y a qu'un médecin qui peut savoir faire ça.
C'est possible qu'il faisait partie d'une secte. Peut-être même que les femmes étaient sacrifiées.
C'est même possible que ce soit une bande, qu'il soit plusieurs.
Chemin de l'inquiétude, rivière de la haine et de la trouille, est-ce un hasard? Danny Corlana nous affirme que très vite, ils se rendront compte que cette théorie ne tient pas la route.
Il faut dire que où les sacs ont été retrouvés dans les différents endroits, le nom des rues peuvent engendrer une certaine genre de légende urbaine, comme on appelle, rue chemin de l'inquiétude, rue de la haine. Ce sont des mots qui sont évocateurs, mais Après enquête, disons, parallèle, recoupement et audition de certaines personnes, bon, on a un peu remis les choses en place. C'est pas un jeu de piste, quoi. Donc c'est un hasard, parce qu'il fallait qu'ils se débarrassent des sacs poubelles avec les membres à l'intérieur. Donc je crois qu'il avait une zone, une zone de confort dans laquelle il évoluait et dans laquelle il s'est débarrassé des sacs, quoi. Les premiers, ça a été peut-être plus réfléchi que les suivants, parce que évidemment, à partir du moment où on a découvert les premiers sacs, il s'est senti traqué quelque part. Il a dû s'en débarrasser d'une manière moins réfléchie. Donc, abandonner des sacs, peut-être avec moins de prudence aussi, il fallait qu'il s'en débarrasse, puisque tout le monde cherchait après lui à ce moment-là. Donc, la ville était quadrillée, donc il fallait absolument qu'il trouve des endroits vite fait, si je puis dire.
Avant de comprendre pourquoi les trois prochaines années sont cruciales dans l'histoire du dépeceur de Mons, laissez-moi vous faire un petit résumé de tout ce que nous vous avons expliqué depuis le début du podcast. Entre 1996 et 1997, à Mons, des sacs poubelles contenant des morceaux de corps humain ont été découverts dans et autour de la ville. La presse surnomme l'auteur de ces crimes le dépeceur de Mons. Malgré des années d'enquête, l'identité du ou des coupables reste un mystère, malgré près de 1000 pistes examinées. Les victimes, 5 au total, toutes des femmes, ont été identifiées. Mais les circonstances exactes de leur mort et les motivations du meurtrier demeurent inconnues. Avec la prescription de l'affaire prévue en 2027, le temps presse pour obtenir des réponses et rendre justice à ces femmes avant que la page ne se tourne définitivement.
Mais alors, c'est quoi la prescription? Quel est le lien avec notre histoire? Va-t-elle avoir lieu?
Nous avons été accueillis par Franck Di Cepoli, spécialiste en droit pénal et avocat des enfants d'une des victimes.
La prescription, c'est tout simplement un mode d'extinction de l'action publique par le passage d'un, par le passage du temps. Donc il y a un délai qui est fixé par la loi et au-delà duquel, eh bien, on ne peut plus poursuivre une personne pour un délit ou un crime déterminé. En ce qui concerne la problématique du dépeceur, ben, c'est justement une problématique assez particulière puisque, en principe, il s'agit de faits criminels qui devraient être prescrits dans quelques années, 2027. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, puisque la loi a été modifiée récemment et rend imprescriptibles certains types de délits ou de crimes. Et en l'occurrence, rend imprescriptibles les délits ou les crimes, plutôt les crimes, qui visent des assassinats dans un contexte, en gros, de peur, de terrorisme sur la société en général. Et ici, ben, force est de constater qu'en ce qui concerne les crimes dus ou des dépeceurs, parce qu'on ne sait toujours pas qui ils sont au singulier ou au pluriel, eh bien, il va de soi que cela avait, me semble-t-il, un impact sur la société. Donc, comme les règles en matière de prescription sont des règles dites d'application immédiate, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas encore atteint la prescription, les nouvelles règles qui seraient rentrées en vigueur et qui font se rallonger la période de prescription, eh bien, elles sont automatiquement valables, même pour les crimes anciens, du moment que la prescription n'est pas encore atteinte.
Eh bien, est-ce qu'après autant d'années, peut-on encore garder espoir ?
Maintenant, effectivement, plus le temps passe et plus ça devient délicat de trouver quelqu'un. Mais on ne sait jamais, des langues qui s'étaient liées vont-elles se délier maintenant ? Alors, pour quelles raisons se délieraient-elles ? Est-ce que c'est en lien avec le fait que l'auteur ou les auteurs des faits seraient, par exemple, décédés, que par conséquent, on pourrait parler ? Je n'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, il y a encore de l'espoir, me semble-t-il, tant que ce dossier n'est pas clos définitivement. C'est très compliqué, puisque les familles des victimes, évidemment, plus le temps passe, et plus elles ont aussi peut-être envie, entre guillemets, de passer à autre chose. C'est-à-dire que le rabâcher tous les X temps, on va peut-être relancer l'enquête, peut-être ceci, peut-être cela, ça leur fait espérer toute une série de choses, et ça ramène à leur mémoire, évidemment, des moments extrêmement durs. Donc, pour les victimes, vous savez, c'est à ça que ça sert aussi, la prescription. C'est de dire qu'après un certain temps, ben, on ne poursuit plus parce que pour une paix sociale, tant pour l'auteur présumé, qui n'y a pas tellement d'intérêt à ce qu'il soit poursuivi 40 ans après les faits, que pour les victimes qui sont peut-être passées à autre chose et qui n'ont pas envie de se remémorer tout ça, eh bien, cette prescription, elle sert un peu à ça.
Maintenant que vous savez ce qu'est la prescription, vous comprenez l'importance que son recul pourrait avoir afin que peut-être la réponse à cette histoire ne soit découverte un jour.
Nous avons utilisé des archives du JT de la RTBF présentées par Jacques Bredal et du procureur du roi de l'époque, Pierre Honoré.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous souhaitons tout particulièrement remercier nos intervenants Franck Dittier-Poli, Dani Corlana et nos participants du micro-trottoir. Sans oublier notre professeur Manu Delporte. Salut à tous !